VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 19h à Kigali. Bienvenue à notre journal. Crise migratoire, une fusillade entre des réseaux rivaux de passeurs opérant en Libye a fait 22 morts et une centaine de blessés. Des migrants, selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM s'appuie sur les informations reçues de ses équipes opérant en territoire libyen. Elle estime que les victimes viennent d'Afrique subsaharienne et qu'il s'agit de migrants et non de membres des bandes criminelles impliquées dans l'accrochage. Depuis l'accord conclu il y a un an entre l'Union européenne et la Turquie, la route maritime entre la Libye et l'Italie est devenue la principale voie de migration clandestine vers l'Europe, stimulant les intérêts des bandes criminelles qui monnaient les traversées. Cela suscite toutes sortes d'activités dans le milieu des passeurs et a apparemment conduit à cette violente fusillade, d'après Joël Milman, porte-parole de l'OIM. Depuis le 1er janvier, près de 16 000 migrants sont arrivés en Italie via la Libye, contre un peu plus de 9 000 sur la même période l'année dernière. Famine en Somalie maintenant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce mardi la communauté internationale à se mobiliser massivement pour éviter le pire. Morgane Guiriec.
Il est possible d'éviter le pire, a déclaré à la presse Antonio Guterres après s'être entretenu à Mogadiscio avec le nouveau président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, élu le 8 février. Nous avons besoin d'un soutien massif de la part de la communauté internationale pour éviter une répétition des événements tragiques de 2011, affirme-t-il. La sécheresse ravage l'Afrique de l'Est et la Somalie est au bord d'une troisième famine en 25 ans. D'après l'AFP, l'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 6,2 millions de Somaliens, soit la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont près de 3 millions qui souffrent de la faim. La Somalie fait face à une sécheresse qui pourrait devenir une famine si nous n'avons pas de pluie dans les deux prochains mois, a averti le président de ce pays privé depuis 1991 de pouvoir central. Les nouvelles autorités de ce pays rongé par deux décennies de guerre et de crises humanitaires à répétition ont décrété fin février l'état de catastrophe nationale et les images de corps émaciés émergent dans les médias, faisant ressurgir le spectre de la famine de 2011.
Crise humanitaire dans le bassin du lac Tchad. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU vient de terminer une tournée de 4 jours dans la région où elle s'est rendue au Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria. Que faut-il attendre maintenant de ses membres à leur retour à New York? La réponse du représentant permanent du Sénégal au Conseil de sécurité, Fodesek, au micro de la correspondante de la Voix de l'Amérique à l'ONU, Margaret Beshear.
On nous a posé la question, pourquoi le Conseil de sécurité refuse de prendre une résolution pour venir en appui à la task force sous-régionale? J'ai dit, vous n'avez pas besoin de résolution parce que ce n'est pas une résolution qui vous a créé. C'est la détermination des pays de la sous-région de se mettre ensemble et de confronter ensemble ce problème. C'est ça qui va faire venir la communauté internationale. Et nous allons jouer notre partition en tant que membre du Conseil de sécurité pour que tout le système des Nations Unies, tous les partenaires techniques et financiers puissent venir en aide également à ce bassin de l'actuel.
Fodesek, représentant permanent du Sénégal à l'ONU. Gambie, le syndicat de la presse gambienne a protesté ce mardi contre l'agression d'un journaliste par des sympathisants du président Adama Barrow. Les précisions de John Lyndon.
Keba Diéfon du journal privé Foroya a été prise à partie dimanche lors d'une conférence de presse à laquelle participaient notamment le ministre des Affaires étrangères Ousseni Darbo et celui de l'Intérieur Maï Fati, selon des témoignages. Le journaliste dit avoir été agressé pour avoir posé une question sur un éventuel éclatement de la coalition formée autour du président Barrow à l'approche des élections législatives. Il a été frappé, puis sorti de la salle par un groupe de militants mécontents, selon son récit. L'attaque contre le journaliste Keba Diéfon du journal Foroya est une attaque contre la liberté d'expression, en particulier la liberté des médias, a déclaré Saïkou Djamé, secrétaire général du syndicat de la presse gambienne. Cet acte barbare et illégal n'a pas sa place dans une société démocratique. Nous le condamnons et appelons les responsables des partis politiques, dont les militants ont agressé le journaliste, à prendre les mesures appropriées pour régler cette question, a poursuivi Saïkou Djamé. Plusieurs journalistes ou militants ont dénoncé l'agression de Keba Diéfan. Beaucoup ont invité le président Barrow, élu à la présidentielle du 1er décembre face à Yahya Jammeh, à éviter les travers de son prédécesseur.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, les partis d'opposition dénoncent les restrictions administratives entravant leurs manifestations publiques et réunions politiques. La toute dernière formation à s'en plaindre, le Social Democratic Front, SDF, principal parti de l'opposition, qui n'a pas pu organiser le week-end dernier à Douala une marche pour sensibiliser les populations sur le fédéralisme et l'unité nationale. Le gouvernement camerounais a dit craindre des troubles à l'ordre public. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Les restrictions administratives des manifestations et réunions publiques mettent à mal les activités des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Parfait Aloïse Voum, président de la circonscription électorale de Yaoundé 4 pour le Social Democratic Front, le SDF.
Il y a deux ans, les femmes de Yaoundé 4, à l'occasion du 8 mars, voulaient manifester contre les coupures d'eau et d'électricité dans cet arrondissement. Le sous-préfet n'a pas cru devoir leur donner l'autorisation. On n'arrive pas à travailler, à expliquer nos programmes d'action, à revendiquer parce que le pouvoir est frileux en matière de manifestation publique.
En 2015, 2016 et en cette année en cours, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a vu plusieurs de ces événements politiques interdits par les autorités administratives. Une interdiction parfois répressive comme le 29 mars 2016. Sostin Médard Lipote, conseiller du président national du MRC, avait été molesté par les forces de l'ordre ce jour-là.
Nous avons été surpris que M. le sous-préfet vienne voir le siège du MRC interdire que nous ayons une conférence de presse alors que, à l'accoutumée, en notre siège, nous tenons normalement les conférences de presse. Il avait donc eu des canons à eau, des gaz lacrymogènes et puis interpellations massives de plus de 60 personnes.
L'Union des populations du Cameroun, l'UPC, le plus vieux parti politique de l'opposition, passe aussi par les mêmes travers, ce qui fait croire à son président qu'il ne saurait s'agir là d'une simple coïncidence pour l'opposition camerounaise. Victor Onana.
Les sous-préfets sont plutôt des supplétifs du parti au pouvoir. Ce qui fait que les partis politiques sont assez maltraités. Même pour les grands partis comme les nôtres, il y a toujours des sous-préfets qui se croient obligés de vous interdire. J'en ai subi très récemment.
Un sous-préfet que nous avons sollicité pour interview n'a pas donné une suite favorable à notre requête. Depuis le retour de la démocratie en 1990, l'opposition et le gouvernement ne s'entendent pas sur les pouvoirs dévolus aux sous-préfets et préfets en matière d'autorisation des réunions et manifestations publiques au Cameroun. Professeur Eric Mathias Owonangini, politologue, enseignant à l'Université de Yaoundé 2.
Il y a une divergence entre les autorités administratives, notamment au niveau du commandement, préfet et sous-préfet, dans l'appréciation de ce que c'est que la déclaration ou alors l'autorisation. Pour ceux qui viennent déclarer les réunions et les manifestations du côté des partis politiques, ils estiment qu'il suffit simplement de déclarer, alors que pour l'autorité, la déclaration ne suffit pas.
Un flou juridique qui jusqu'ici profite aux partis au pouvoir. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, le nouveau décret migratoire pris par l'administration Trump a été rédigé en priorité de façon à passer l'obstacle de la justice américaine. Les précisions de Jacques Aristide.
L'un des principaux amendements par rapport au décret du 27 janvier, l'Irak ne fait plus partie des pays visés. Les six pays de la liste d'interdiction pour 90 jours sont les trois de la liste du département d'État des pays qu'il dit soutenir le terrorisme. Iran, Syrie, Soudan, de même que trois présentés comme États en faillite, Libye, Somalie, Yémen. Où vérifier les antécédents des demandeurs s'avère impossible d'après l'administration Trump. Quant aux détenteurs de cartes vertes et de visas, ils sont explicitement protégés. La suspension de l'accueil des réfugiés est décrétée pour 120 jours, comme auparavant. Les réfugiés syriens, qui étaient bannis sine die, sont également bloqués pour 120 jours. Ceux dont le voyage aux États-Unis était déjà planifié pourront toutefois venir. La réécriture a satisfait la majorité républicaine, dont beaucoup s'étaient désolidarisés du gouvernement. Mais les opposants de la première heure, dont le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, ont dénoncé un texte toujours discriminatoire. L'ONU de défense des droits civiques, ACLU, a promis de le contester, tweetant « Rendez-vous au tribunal ».
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.